Trizac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trizac.
Patrick Derry est avec nous pour faire le tour des actualités. Patrick, bonjour.
Salut Benoît.
Bonjour. Alors, on va parler plus tard de l'assermentation des nouveaux ministres à Ottawa. Ça reste pas mal. C'est banane-banane. Oui. Ça ressemble pas mal à ce que c'était.
C'est ça. Tu regardes pas ça?
Ben je le regarde, puis je vois les mêmes faces passer avec les mêmes noms. Puis là, ils ont peut-être joué un petit peu à la chaise musicale. Puis là, tu dis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu juste besoin d'un remaniement ministériel au lieu de dépenser 612 millions d'argent des fonds publics? Mais Justin n'a jamais travaillé de sa vie. Il sait pas ce que ça représente une pièce. Fait que j'ai arrêté de me poser des questions.
Ce qui est fantastique aussi, c'est que quand tu es un ministre de la Défense incompétent, ben tu reçois un autre ministère en récompense.
Ben oui, tu t'en vas. Ça c'est le plus extraordinaire. Monsieur Sajjan, il s'en va où?
Je pense que c'est au commerce extérieur, mais je veux faire attention. J'ai vu passer une belle ville, mais j'ai arrêté de lire quand j'ai vu qu'il conservait un siège. J'en revenais pas. Je me dis qu'est-ce que ça prend pour perdre un ministère.
Ouais, l'homme qui a fermé les yeux sur des cas d'harcèlement sexuel, d'inconduite sexuelle, puis il avait toujours la bouche ouverte à pas savoir quoi répondre. C'est hallucinant. Puis il avait menti aussi, hein, sur son implication dans les forces armées canadiennes. C'est tout un personnage.
C'est formidable.
Le bilan COVID, Patrick, ça ressemble à quoi?
Mais écoute, c'est assez bon. Écoute, bon, les chiffres rapidement aujourd'hui, le 340 cas, c'est la deuxième journée de suite qu'on est dans les 300. C'est pas arrivé depuis la fin août, donc deux mois. Les hospitalisations, 259, ça bouge pas aujourd'hui. Ça baisse un petit peu aux soins intensifs, moins 3, total 66. Les décès, on a encore 4 décès par jour. Là. C'est toujours 4 décès de trop, mais en tout cas, au moins, ça monte pas. Ce qui est intéressant, c'est le portrait global. C'est la semaine passée, quand on s'était parlé, ça avait l'air à vouloir baisser, mais c'était pas sûr encore. Là, ça baisse pour vrai et ça baisse beaucoup. Sur une semaine, le nombre de cas, quand on ramène la moyenne des 7 derniers jours, ça a baissé de 25 % en une seule semaine. C'est vraiment énorme. On était autour de 550 cas par jour en moyenne. Il y a une semaine, là, on est rendu à 410. Et c'est une tendance à la baisse qui est très, très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, les hospitalisations et régulières et aux soins intensifs ont baissé un petit peu. C'est un petit peu plus fort du côté des soins intensifs. Mais si la baisse des cas se poursuit, ben tous les autres indicateurs vont suivre parce que c'est directement lié. Et là, la grosse question.
Patrick, oui? T'as souligné le fait que Dr Arruda est encore dans le champ à propos du passeport vaccinal, comme il l'a été à propos du masque.
Oui, ben c'est ça. Tu sais, quand on regarde, là, il y a un débat à savoir c'est quoi le facteur qui est le plus important présentement. Là, les avis sont partagés. Moi, quand on regarde strictement sur le plan des données puis les grands indicateurs, tu sais. Par exemple, si on met un changement radical, on impose aujourd'hui, on le fera pas évidemment, là, mais tu sais, un confinement hyper strict, tout le monde reste enfermé chez vous, pas le droit de sortir pendant deux semaines, c'est sûr que les cas dans deux semaines, on va regarder puis ça va baisser. Parce que ça, c'est un changement radical. Quand c'est des changements graduels, là, la baisse se fait à long terme, mais on voit pas de cassure. Par exemple, le taux de vaccination, là, qu'on vaccine encore quelques milliers de personnes à chaque jour sur une population de 8 millions et demi, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire à un moment donné que, tu sais, en passant de, je sais pas moi, 82.3 à 82.4, que tout d'un coup, les cas vont se mettre à baisser. C'est sur le long terme qu'on va le voir parce qu'il va y avoir moins en moins d'espace. Il y a une chose, par contre, qui a changé après la rentrée et où on a eu vraiment une cassure, c'est-à-dire on a changé considérablement la possibilité pour le virus de se propager, et c'est quand on a mis en vigueur le passeport vaccinal. Ça n'a évidemment pas fait changer le taux de vaccination, mais ce que ça a fait, c'est tout d'un coup, les quelques 2 millions de Québécois, en tout cas, mettons, le million d'adultes qui n'étaient pas vaccinés à ce moment-là, avait plus le droit d'aller à peu près nulle part. Fait que ça, c'est un changement majeur. Tu coupes, à part les écoles, à peu près tous les autres lieux de transmission. Et le passeport vaccinal est entré en vigueur le 1er septembre. Et de façon historique, avec la COVID, puis en raison là, du temps pour la transmission, pour la détection des infections, on sait que ça prend à peu près deux semaines quand une mesure est mise en place pour qu'on envoie les effets. Donc, autrement dit, sur le coup, les cas continuent à monter parce que ça a été contaminé avant, mais au bout de deux semaines, on voit l'effet de la mesure. Et qu'est-ce qui est arrivé le 15 septembre? Deux semaines après l'entrée en vigueur du passeport vaccinal, c'est précisément là que ça a commencé à baisser. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, que disait Dr Arruda en avril à propos du passeport vaccinal? Je pense qu'on surestime ce que ça peut faire et je pense qu'on sous-estime les effets pervers, je les connais pas encore, et tous les enjeux d'opérationnalisation d'un passeport vaccinal. Donc, ce qui consiste à montrer ton téléphone puis que quelqu'un le scanne, puis peut-être ton permis de conduire, puis c'est réglé. Il disait aussi, si jamais on s'en sert, ce serait dans une utilisation assez marginale. Et le Québec, comme à peu près toute l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale, a implanté un passeport vaccinal l'ensemble de son territoire pour la quasi-totalité des activités qui ont lieu dans les espaces publics intérieurs. Donc, encore une fois, comme pour le masque, comme pour autre chose, une chance qu'on n'a pas écouté Dr Arruda.
Ouais, une chance qu'on l'a.
Qui est le patron de la santé publique, on doit le rappeler. Ouais. C'est lui qui décide, mais on ne l'a pas écouté.
Et tu sais, aussi les griefs des gens qui sont atteints de la COVID longue, M. Arruda, ça n'a pas l'air l'intéresser bien. Hein, tu sais, il y a eu une sortie vendredi dernier, puis j'ai pas eu de nouvelles. Moi, j'ai pas vu M. Arruda réagir à ça.
Non, c'est ce que je me rappelle encore, c'est tu sais, il y a une espèce d'obsession, une volonté très très forte de vouloir à tout prix atténuer tous les effets relatifs à la santé mentale liés à la pandémie. Et là, je suis en train de dire que la santé mentale c'est pas important, vraiment pas. Mais à un moment donné, tu sais, la santé, les problèmes de santé mentale ont pas tué 11 000 Québécois depuis un an et demi. C'est pas ça qui a fermé les écoles temporairement, qui a perturbé nos vies, qui a coupé des emplois, il y a ça aussi. Et moi, il y a une déclaration de Dr Arruda, quelques jours, je sais pas si tu te rappelles, en mars l'année passée, à un moment donné, on a eu le Québec résiste aux variants, il y a la troisième vague, c'était M. Legault. Après ça, Dr Arruda avait parlé des cycles de la peur chez les directeurs régionaux de santé publique qui disaient, écoutez, le variant alpha, là, ça commence à monter en tabarouette, ça commence à nous inquiéter pas mal. On devrait peut-être fermer quelques affaires avant qu'il soit trop tard. Et lui, il a dit, non, faut absolument pas paniquer. Puis écoutez, il va sûrement avoir des hospitalisations, puis des morts, des gens comme vous, il parlait à un journaliste de la presse. Mais écoutez, c'est comme ça, là, mais c'est si on a 2000 cas par jour, puis qu'on n'a pas trop d'hospitalisations, puis je peux vivre avec ça. Et moins de 48 heures après avoir donné l'entrevue, qu'est-ce que le gouvernement faisait? Un demi-tour total, en panique, en fermant des écoles, des centaines d'écoles dans plusieurs régions du Québec et en imposant un retour un peu plus appuyé aux mesures sanitaires.
Avant qu'on se quitte, Patrick, rapidement, là, François Legault qui recule sur la vaccination obligatoire, encore une fois.
Oui, bien, hier, M. Legault a dit que ça allait dépendre du recrutement des infirmières. Et là, M. Legault, déjà avant le précédent report, le 15 octobre, quand on avait dit que ce serait le 15 octobre comme condition pour travailler dans le système de santé, qu'il fallait être vacciné, il avait dit qu'il allait pas reculer. M. Dubé avait dit qu'il allait pas reculer. M. Legault a reproché au chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arsenault, d'envoyer un très mauvais signal en disant qu'il fallait pas, il fallait reculer sur la mesure. Fait que M. Legault a reculé une première fois. Et hier, ce qu'on comprend, c'est que M. Legault, en tout cas, se garde à tout le moins une marge de manœuvre pour reculer encore. Il envoie lui-même un très mauvais signal à l'effet qu'il pourrait reculer au 15 novembre. Donc, c'est pas de nature à, disons, pousser les récalcitrants à se rendre à une décision qui est un petit peu plus rationnelle.
Aller forcer à se faire vacciner, tu sais, simplement qu'ils se fassent vacciner. Mais là, on a abdiqué, on a abandonné, on a plié les chines, puis on n'a plus de rapport de force.
On n'a plus de rapport de force. Et moi, j'essaie de regarder plus loin. Parce que là, il y a un débat dans le système de santé. Il y en a qui disent, écoutez, c'est faut reculer parce qu'il va y avoir des bris de service. D'autres qui disent, non, faut qu'on s'arrange. Puis c'est encore pire pour les malades si la COVID se transmet dans les hôpitaux. Mais tu sais, au Québec, on a entendu en avril 2021 pour que le dépistage soit obligatoire dans le système de santé. On parle juste du dépistage, là. Ouais. Même pas de la vaccination. Là. Ouais. En Ontario, dans les CHSLD, il avait commencé au mois de juillet. Ils ont rajouté un deuxième tour de vis en novembre. Nous, on avait commencé seulement en avril cette année. Même là, c'était pas pour tout le monde parce qu'on a vu en immuno-oncologie à l'Université de Sherbrooke, à Sherbrooke, il y a des gens qui sont morts infectés par des soignants qui étaient non vaccinés. On a payé pendant des mois les employés non vaccinés pour qu'ils aillent se faire tester sur les heures du travail ou en dehors. Ça a coûté plus d'un million, mais c'est surtout ce que ça a envoyé, c'est de dire, regardez, il n'y a pas de problème. On a, le gouvernement a financé une incitation à la non-vaccination. Tu sais, je veux dire, c'est assez formidable. Après ça, il y a une commission parlementaire. Écoute, tu sais, au début de l'année, en Colombie-Britannique, sans obligation, il y avait un taux de vaccination qui était quand même très élevé parce que de longue date, on s'est rendu compte qu'il y avait de la résistance dans le milieu de la santé, puis qu'il fallait parler aux gens, fallait les accompagner. Et là, évidemment, ils l'ont rendu obligatoire aussi en bout de course, mais il y a plein d'endroits, des écoles, des universités, le gouvernement fédéral, il y a le gouvernement de certaines provinces, il y a aussi les commissions scolaires dans l'Ouest qui ont rendu la vaccination obligatoire pour leurs employés.
Mais pas au Québec, pas dans la santé. On va vivre avec, ça a l'air, hein, puis c'est eux qui ont gagné le combat, de toute évidence. Patrick Derry, merci. À la prochaine.
Bonne fin de journée.